Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors, un plaisir d'être de nouveau avec vous. Merci de toujours nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, je reçois une femme d'influence. Elle est d'origine marocaine. Il s'agit de Mariama Zouri, qui est venue en 2001 au Québec pour poursuivre des études à HEC Montréal. Elle y est restée et s'est investie pleinement, entre autres, auprès des femmes de la diversité. Pour elle, les femmes ont leur place. Les immigrants ont leur place et la foi en la citoyenneté positive. Bonjour Mariama Zouri.
Bonjour, merci pour l'aimable invitation.
Ah, vraiment, c'est un plaisir de t'avoir à mon micro. Et puis, tu es une femme d'inspiration, je te suis un peu sur Facebook, sur LinkedIn et tout ça. Donc, on se connaît déjà, il faut bien le dire. Donc, alors, c'est pour ça qu'on va se tutoyer.
Absolument.
Et puis, je vais en connaître davantage. Alors, actuellement, tu occupes le poste d'associée directrice service conseil, leader gestion des risques et projets majeurs chez Hammersmith Consulting.
Exact.
C'est
oui,
bien
oui,
ça?
Oui, tout à fait.
D'accord. Oui. Mais avant d'aller dans tout ce que tu as fait, parce que c'est nombreux, ton implication communautaire, des affaires et tout, je veux qu'on trace un profil de la femme que tu es avant d'arriver maintenant à ce que tu as comme niveau professionnel. J'aimerais connaître ton parcours migratoire. Est-ce que tu es d'origine marocaine? Est-ce que tu es venue directement ou tu as vécu dans d'autres pays? Comment ça s'est passé?
Écoute, d'abord, merci encore. Je suis ravie d'être parmi tes auditeurs et tes auditrices. Moi aussi, je te suis beaucoup.
Merci.
Je suis très fan pour la mission que tu entreprends depuis plusieurs décennies.
Oui.
Alors, moi, une histoire courte, j'avais fait mon bac plus 4 au Maroc, dans une grande école de commerce, le NCG de Stade. Et normalement, le parcours de toute personne qui fait les écoles de commerce... Généralement, c'est que tu plafonnes en termes d'éducation, on cherche à s'épanouir intellectuellement à l'étranger. Et j'avais fait, comme tout le monde, des inscriptions à travers vraiment toute l'Europe. Puis le Canada était dans ma liste, mais ce n'était pas le premier. C'était vraiment un concours de circonstances. Je me rappelle quand j'avais fini mes études. Je demandais conseil. Moi, je suis quelqu'un qui part vraiment, qui croit en conseil, en mentorat et en coaching. Et donc, j'avais demandé à quelques-uns de mes profs leur avis par rapport aux différentes inscriptions. J'aurais pu aller à Genève, j'aurais pu aller à Paris, j'aurais pu aller à Bruxelles aussi. Mais j'avais ma prof qui s'appelait Bouchra, que je salue si un jour elle entend ce balado. Mais elle revenait du Québec et elle n'avait que des éloges pour le Québec. Elle m'a dit, écoute, c'est là qu'il va falloir aller. Ça se trouvait que mon père, des années avant, me disait comme ça, juste à la rigolade, si tu veux aller étudier au Canada, je t'enverrai.
Oui.
Et donc, c'est vraiment un concours de circonstances et le hasard a fait que j'étais admise à un programme de maîtrise en gestion internationale ou HEC. Et j'étais aussi chanceuse parce que j'ai eu aussi accès à une certaine bourse qu'on appelle, que le Canada offre aux pays en développement, à laquelle j'ai postulé. Et encore là, j'étais retenue, mais je ne le savais pas. Mon début au Canada, ce n'était pas des plus gays.
Oui.
Parce que quelques jours après mon arrivée au Canada, mon papa est décédé. Et donc, j'ai rebroussé chemin pour ne plus revenir. Pour moi, le Canada, c'était fini. Et je découvre que j'ai une bourse qui m'attend pour revenir au Canada. Donc, c'est vraiment qui m'a fait revenir. Autrement, autrement, je serais partie pour ne plus revenir. Je pense que le Canada m'a fait un petit clin d'œil.
Donc, alors, tu as parlé de ton papa. J'aimerais savoir, toi, au niveau de l'éducation, de tes parents, dans quel terreau que tu as évolué?
Écoute, je viens d'une famille de classe moyenne. J'étais, puis je pense, jusqu'à aujourd'hui, la plus scolarisée dans ma famille. Je viens d'une d'une famille très nombreuse. Mon papa était polygame, donc il avait 4 femmes. Ma mère était la première. Extended, j'ai 17 frères et sœurs. Aujourd'hui, ça me permet de voyager à travers le monde.
Il y a ces bons côtés, alors.
C'est ça, exactement. C'est ce bon côté. Mais c'était quand même assez conservateur, dans le sens où, quand j'avais dit que je voulais aller étudier toute seule au Canada en mode parachute, que j'appelle, c'était presque impossible. Alors, il a fallu que... je leur démontre que je serai à Maria Goretti, c'est une résidence pour les filles qui est sur, je pense qu'elle est toujours là, sur Côte-Saint-Catherine, qui était à 5 minutes de HEC. Et donc, ça a fait, il y avait un travail un peu de conviction auprès de mon papa et mes grands frères pour que je puisse prendre mon envol. Mais l'avantage ou la qualité de mon papa à l'époque, c'est que quelqu'un qui pourrait très bien te dire non, vas-y pas, mais si tu y tiens vraiment, il te laisse. Et ça, moi, je l'avais compris très tôt. Donc, à chaque fois que j'arrivais à une étape d'éducation dans ma carrière, il faut dire aussi qu'à l'époque, au Maroc, il y avait beaucoup de chômage. Et son argument, à chaque fois que j'arrivais à un niveau de scolarité, mettons ma 4e année, après le baccalauréat technique, puis après le bac plus 4 et les concours, il me disait « Ah, bah, tu sais, il y a plein de personnes qui sont chômeurs qui ont des doctorats et des licences.
»
Puis moi, ma réponse toujours est « c'est eux. » Et moi, c'est différent. Et donc, pourvu que j'ai cette première conversation avec lui, puis si je tenais à mon idée, il me laissait faire. Et ça, je pense que... c'était une qualité. Je pense qu'il voulait s'éviter les tracas payer pour le voyage et tout ça. Mais dès qu'il voyait que j'y tenais et que je mettais les efforts, on avait un deal. Le deal avec papa qui était, que Dieu ait son âme, ça fait 22 ans qu'il est décédé, c'est qu'à chaque fin d'année scolaire, moi, je ramenais un bulletin qui est honorable. Puis je recevais un cadeau en or en contrepartie. Donc ça, c'était comme le deal. Alors...
C'est ça. Donc, alors, c'était quand même un père qui était ouvert aussi à la promotion des femmes, à l'émancipation des femmes.
Il aimait les femmes surtout.
Ah oui!
Alors, c'est ça. De là, on peut dire très ouvert.
Oui.
Il avait en moi cette qualité de ne pas être obstiné ou en tout cas pas contrôlant dans ce sens-là. Je pense que ça prenait cette dynamique-là pour que je puisse aller... aussi loin que
aussi
je pouvais.
Oui, d'accord. Je poursuis ma discussion avec Mariama Zouri, associée directrice service conseil, leader gestion des risques et projets majeurs chez Hammersmith Consulting. Alors, Mariama, dis-moi dans ce rôle-là, quel est ton mandat?
Écoutez, c'est un rôle de leadership pan-canadien dans le sens où j'ai à développer le marché pour le Canada au complet. J'ai un focus et un faible pour le Québec présentement, où on se concentre beaucoup à servir en fait des grandes clientèles, majoritairement des corporations, en tout ce qui a trait à la gestion de risque, gestion de projet, TI majeur, tout ce qui a rapport avec la gouvernance de conseil d'administration et conseil stratégique. Là-dedans, il y a tout ce qui est continuité des affaires, évidemment, qui est aujourd'hui le sujet des jours, la protection des données, aussi un sujet de grande actualité. Sans oublier le AI, aujourd'hui, il y a ce virage formidable et incroyable de notre économie vers une économie à teneur de données, d'intelligence artificielle. Et donc, on aide notre clientèle aussi à galoper, parce que juste cheminer, ce n'est plus le terme, vraiment à galoper, à prendre des vagues de croissance dans cet élan-là.
Ah ouais. En parcourant ton CV, j'ai vu que tu as fait quand même, tu as travaillé dans de grandes entreprises, Deloitte et bien d'autres que j'en passe, et puis toujours à des postes quand même stratégiques et des postes décisionnels. Donc la question que j'aimerais te poser, Mariama, est-ce que as-tu eu des difficultés à te trouver un emploi? Parce que en parcourant ton CV, on aurait dit que tu sautes d'un grand emploi à un autre, grande entreprise à une autre.
C'est une excellente question. Je pense que mon parcours avait commencé quand même, il faut le dire, chez PwC, qui est un des Big Four, très connu mondialement, qui a des chapitres ou en tout cas des divisions partout dans le monde. Mais c'est vraiment question de conviction et plan de match. Moi, quand j'ai décidé que je vais m'installer au Québec, j'avais pour ambition pour moi-même de travailler pour une grosse corporation à teneur mondiale, idéalement parce que j'avais fait ma maîtrise en gestion internationale, mais mon bac, je l'ai fait en gestion financière et comptable et audit. Et donc, je voulais donner un peu la dimension internationale à mon profil. Et ça a commencé dans une fondation qui s'appelle, je ne sais pas si elle existe encore là, mais Fondation Ressources Jeunesse, où j'avais commencé ma recherche d'emploi comme tout finissant d'école ou de bachelor ou de maîtrise, où ça m'a pris quand même 6 mois de... Moi, je dis, mon premier employeur était moi-même. Je travaillais pour Mariama de 9 à 5 pendant 6 mois. Et j'avais un peu mon toolkit dans le sens où je dis, c'est comme que tu fais du bricolage, t'as des tournevis, des pinces et tout ça. Et donc, à chaque fois, l'approche est différente. À l'époque, je te parle d'il y a plus de 20 ans.
C'est ça.
Il n'y avait pas de LinkedIn. On ne savait même pas c'était qui le CEO d'une organisation.
Exactement.
Ouais. J'avais mon 411. Là, je faisais mon pitch en anglais, en français. À l'époque, mon anglais aussi était moyen. Et donc, je faisais des cold calls qu'on appelle. J'avais fait une petite liste de recherche comme ça à la mitaine. Et j'ai commencé ma recherche d'emploi comme ça. Et donc, l'idée, c'est à l'époque aussi... Je me rappelle très bien, il y avait quelqu'un qui partageait un peu son expérience en tant que mentor, et il disait qu'une façon de présenter son CV suite à une offre d'emploi, c'est qu'il a proposé de tenir la main, de serrer la main à la personne tout en étant proche. Alors, j'ai fait exactement la même chose. Ça veut dire que quand j'avais postulé, j'ai eu le contact, le premier contact. J'ai dit, écoutez, je suis juste à côté. Il me ferait plaisir de vous donner mon CV en main propre. À l'époque, on donnait les copies.
Exactement, c'est vrai.
Et ce serait quoi votre café? Et je pense que aujourd'hui, c'est plus compliqué, je dois l'avouer. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se distinguer. On a besoin de compétences autres qu'académiques, des soft skills qu'on appelle. Mais maintenant, on a besoin aussi des compétences digitales. Et le marché est très compétitif. La force de travail est de plus en plus jeune. Et au-delà de la jeunesse, le fait qu'on a expérimenté avec COVID le travail à distance aujourd'hui, des gens, tu peux recruter des gens à travers la planète.
Oui, bien sûr.
Même avec les fuseaux horaires différents, il y a peut-être 15 ans, c'était vraiment les corporations innovatrices qui avaient les espaces ouverts, qui pouvaient travailler à distance et tout ça, et être sur plusieurs fuseaux horaires. Mais c'est ça, c'est pas... Il y a plein d'embûches là-dedans, il y a eu des épisodes difficiles. Mais surtout, moi, je pense à chaque fois, ce qui me permettait de rebondir, c'est de croire en moi, en mes compétences, et que surtout, no one, je vais le dire en anglais, je m'excuse, mais no one can make you feel inferior without your consent. Quand tu crois à quelque chose et tu y rêves, tu poursuis ton rêve.
C'est ça.
Ne laisse pas quelqu'un déterminer ou dessiner avec... avec son crayon sur ton tableau de rêve.
Ouais, voilà la direction que tu devrais prendre, quoi. C'est ça. J'ai vu aussi que tu avais été nommée parmi les 15 influenceurs du Québec. Ça, c'était en 2017, par l'émission Gravel, le matin à Radio-Canada. Comment tu as réagi à cette nomination? Parce que c'est quand même c'est une grande reconnaissance. Mmh. Et puis, c'était basé sur quoi? Parce que tu avais déjà un parcours.
En fait, ça rejoignait l'époque, il y avait le grand attentat de Québec. Et
oui.
C'est arrivé, je pense, un dimanche. Moi, une semaine avant, j'avais pris la présidence du Congrès maghrébin du Québec.
Maghrébin, exactement.
C'est
oui,
ça,
oui.
À titre bénévole. Et mmh. c'était un peu mon côté, mon implication communautaire. Et j'ai participé de façon importante et significative avec l'équipe en place aussi mmh. à gérer la crise,
ouais.
à gérer la tension et l'émotion qu'il y avait en ce moment-là.
Mmh.
Et j'ai contribué, je peux le dire modestement, à vulgariser un peu le contexte de cette communauté à l'époque.
Ouais.
J'avais commenté mal aimé, mal comprise. Mmh. Les gens ne comprenaient pas qu'est-ce que les gens faisaient à la mosquée.
C'est ça.
Quoique pour moi, ce sujet reste encore un sujet privé, personnel, dans l'ordre de la vie privée. Mais c'est ça. C'était cette contribution un peu à cette grande... Je pense qu'on a tous, comme Québécois et Québécoises, vécu ça de façon proche et de façon émotionnelle.
Oui, tout à fait. Oui, Mariama, c'est ça. Donc, l'émission Gravel le matin, tu voulais préciser?
Ce que je voulais préciser, c'est que c'était quand même un moment tournant pour la communauté, dans le sens où j'avais quand même le luxe de décider de ma contribution à cette émission-là. Et mm-hmm. je pense que la première émission, c'était une déclaration d'amour au Québec, pour
oui.
dire que au-delà de toute particularité, qu'on soit issu de la diversité ou qu'on soit... comme on aime les appeler, des Québécois de souche, on a le même enjeu et on vit de façon socialement connectée. Et aussi, parce que lorsqu'on arrive comme immigrant, on pense toujours, on garde comme un pied. Et puis c'était un message important à ma communauté, de ne pas garder un pied là-bas et puis un pied ici.
Ouais.
Soit qu'on est ici, soit qu'on est là-bas. Et la deuxième, c'était vraiment de parler des accommodements professionnels. Parce qu'on vient ici
oui.
parce qu'on a un projet économique et d'éducation pour nos enfants. Et encore là, je peux me faire reprocher ce point-là, mais pour moi, tout ce qui est pratique religieuse, c'est de l'ordre du privé. Aujourd'hui, les organisations ont bien évolué. Il y a des salles de yoga dans les organisations.
Bien
sûr. Il y a personne, des salles de repos, il n'y a personne qui empêcherait quelqu'un de lancer son tapis et faire sa prière.
Oui,
je veux dire, on a évolué collectivement dans cet espace-là.
Exactement. Ça m'amène... a aussi te poser la question parce que j'ai trouvé ça intéressant. Tu as parlé de citoyenneté positive. Je trouvais en tout cas le terme intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous l'expliquer?
Écoutez, moi, je pense que chacun de nous qui se réveille le matin, il doit penser qu'est-ce qu'il fait d'abord pour lui, pour sa petite famille, pour son voisinage et aussi sa contribution à la société. D'où, moi, ce qui m'a frappé lorsque je faisais des petites recherches un peu sur la contribution des Canadiens en termes de bénévolat,
oui.
et en termes de dons. Il y a 30 millions de Canadiens qui font au moins un geste par année communautaire. Et donc, à partir de là, je pense qu'on devrait collectivement, et je pense qu'on le fait, qu'on le fait bien dans une grande mesure. Chacun, il est responsable pour lui, mais aussi pour les personnes qui lui sont proches.
Oui.
Mais collectivement, on a une responsabilité et c'est ce que j'appelle être citoyen positif. Mm-hmm. C'est vraiment, c'est quoi ton grain de sel autour de la
voilà,
table
ouais. C'est bien, très beau.
Thank you.
Toujours accompagnée de Mariama Zouri, associée directrice service conseil, leader gestion des risques et projets majeurs chez Hammersmith Consulting. Alors, Mariama, tu es présidente de PMI Montréal. Mm-hmm. Tu as été la première femme immigrante à être élue. Quel est ton mandat et puis le sigle PMI signifie quoi?
Alors, PMI Montréal, c'est le chapitre de l'organisation mondiale qui s'appelle Project Management Institute. Okay. C'est une organisation qui a 330 chapitres à travers la planète. Mm-hmm. Dans tous les pays de liste des Nations Unies, il y a un chapitre. Mm-hmm. Et c'est une organisation qui promouvoit d'abord la gestion de projets comme pratique saine un peu pour aider aux grands chantiers qu'on voit aujourd'hui, tu sais, les ponts, les routes, les hôpitaux, les institutions financières qui font des transformations digitales. Mm-hmm. Il y a toujours quelqu'un qui fait de la gestion de projet quelque part. Puis, donc, ils sont responsables de tout ce qui est formation et certification. C'est l'équivalent un peu des médecins ou des avocats, mais en gestion de projet. Cette organisation au Québec, c'est parmi vraiment les plus pionnières. On est le numéro 5 mondialement et le numéro 1 en francophonie, ce qui n'est pas rien.
Okay.
C'est une organisation aussi qui a un an plus que mon âge.
Ah, oui.
Elle a été créée en 1977 par des personnes vraiment que j'appelle les bâtisseurs du Québec.
Oui.
PMI Montréal, elle en regorge de ces talents-là qui ont participé à tous les travaux de construction et d'infrastructure de Montréal, les grands hôpitaux qu'on connaît aujourd'hui, les grandes universités, tous les projets transformateurs du Québec.
OK. Puis tu as été la première femme immigrante à la présidente ou... ça veut dire qu'il n'y avait que des hommes avant?
Ben, en fait, pour la petite histoire, je pense qu'il y avait trois hommes. Il y avait deux femmes avant moi.
OK.
Puis c'est un espace très blanc à la base.
Ah oui, oui.
À la base, donc je suis officiellement la troisième femme.
D'accord.
Mais la première immigrante à briguer ce mandat de présidence.
Okay.
Mon mandat particulièrement vise à promouvoir la profession de gestion de projet.
Mm-hmm.
On a quand même une communauté qui compte 5200 professionnels.
Ah oui, OK.
Et ça, juste dans la région de Montréal.
De Montréal,
c'est spectaculaire.
Seulement.
On parle de hauts professionnels qui ont un bac et plus.
Mm-hmm.
Donc, c'est un mandat très challengeant, je dois l'avouer. Mais c'est une communauté des plus formidables qui nous permet de connecter aussi avec des gens à travers la planète.
Oui.
Puis pour moi, c'est une organisation qui contribue aussi à l'essor du Québec, au-delà de ce que je viens de citer depuis 1977. Aujourd'hui, ça fait partie un peu des solutions à la crise en ressources humaines, c'est ça, au Québec, parce que c'est l'une des rares certifications qui donne accès au marché de l'emploi direct.
Ah oui,
ça veut dire quelqu'un qui a la certification PMI, Project Management Professional, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit au Maroc ou en Afrique du Sud ou en France, c'est le même contenu. On est formé de la même façon.
D'accord.
Donc, il n'y a pas ce genre d'équivalence ou de contexte. Mm-hmm. Et pour moi, ça, c'est quand même... D'ailleurs, on fait des efforts très importants auprès du gouvernement pour les sensibiliser à l'importance du rôle d'un gestionnaire de projet sur les grands chantiers que le gouvernement entreprend, mais aussi au privé. Notre communauté est présente de façon significative à travers toutes les organisations.
C'est une reconnaissance internationale, finalement, qui nous permet de travailler un peu partout. Écoute, Mariama, tu fais plein de choses parce qu'en plus, c'est très actuel, ces différents postes.
Mm-hmm.
Je vais poursuivre avec celui où tu sièges au conseil d'administration de l'Office des professeurs, des professions, disons, du Québec, qui chapeaute 45 ordres. Alors, tu vois, j'ai un chat dans la gorge, c'est parce qu'il y en a trop.
Oui.
Alors, comment on arrive à être nommé par le gouvernement? Puis, en plus, j'ai vu que tu étais présidente du comité audit. Et comment que c'est arrivé?
Écoute, d'abord, moi, je ne connaissais pas l'Office des professions du Québec. Je connaissais les ordres professionnels de par ma pratique.
Oui.
Alors, on parle des lors des CPA, lors des ingénieurs, lors des avocats, lors des médecins. Et j'ai entendu par l'entremise d'une personne qui sollicitait des candidatures pour briguer un mandat à l'Office des professions.
D'accord.
On a sollicité mon CV.
Ah
et donc,
oui, d'accord.
J'ai regardé ce qui était requis, j'ai monté mon dossier et ma candidature a été retenue en 2017. Je me rappelle, c'était le 14 février que j'étais nommée par à l'époque, c'était le gouvernement libéral. C'était venu le jour du Saint-Valentin.
Mais c'est
pour ça que je me rappelais.
Un beau cadeau de Saint-Valentin.
Oui, puis j'étais renouvelée par le gouvernement présent actuellement de la CAQ Et depuis, au-delà de mon rôle comme administratrice ou mon représentante, on appelle ça, moi dans mon rôle, je représente un peu le volet protection du public. Le comité de dette, on l'avait monté de par, d'abord, cette organisation-là petite, avait besoin d'une certaine structure de gouvernance. Et donc, parmi les recommandations qui ont été faites par le vérificateur général du Québec, c'était d'avoir un comité d'audit dans lequel, dans mon premier mandat, j'étais membre. Oui. Et puis, pas une suite logique, mais quand même, de par ma maîtrise du dossier, je préside présentement le comité d'audit.
Donc, c'est ça. Alors, c'est vraiment une nomination gouvernementale.
Oui, absolument.
OK. Okay. On parle... de l'inclusion et de la diversité, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Maintenant, j'aimerais savoir comment que tu es impliquée là-dedans. Comment que tu portes cette cause?
Écoute, si je reviens sur l'exemple de l'Office des professions du Québec, j'étais la première immigrante ever quand j'étais nommée en 2007 à siéger à cette organisation-là.
D'accord.
Qui a été créé quand même en 1973, pour dire que dans le système professionnel, dans les 45 ordres professionnels, on est peu représentés, nous, les gens de la diversité, sachant qu'il y a quand même du potentiel. L'économie québécoise a besoin de nos compétences, on a besoin de CPA, d'ingénieurs, de médecins, de notaires. Et donc, dans cette perspective-là, ma présence représentant un peu la diversité, même que j'aime pas le dire, je pense que c'est d'abord sur une base de compétences qu'on est là autour
Bien
de
sûr.
La table. Factos, je pense que ça nous donne un peu, ou surtout ça donne une certaine modèle à la communauté de suivre, de dire. Puis moi, c'est ce que j'aime dans ces chantiers-là, c'est quand on est le premier à défraîchir le champ, ça donne un peu aussi, parce qu'on parle de l'inclusion, mais on oublie souvent de parler de l'intégration.
Tout à fait.
C'est une équation à deux composantes. Inclusion, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit faire l'effort d'accueillir, puis l'autre, il doit faire l'effort de s'intégrer. Et dans cette perspective-là, la même chose quand j'étais au cabinet la première fois, je me rappelle en 2002 chez PwC, j'étais la première jeune femme immigrante dans l'équipe. L'autre femme était la big boss.
Oui.
Et ça a pris qu'on apprend à travailler avec des gens qui sont différents pour dire, finalement, ils ne sont pas si, si méchants que ça. Et c'est d'apprivoiser en fait la différence. Et je pense que qu'on a fait du chemin, on a des têtes d'affiche incroyables qui font du travail formidable, comme d'ailleurs ce que tu fais, Marjorie.
Merci.
Et donc, ça prend des personnes qui défraîchissent les premières routes pour les autres. Moi, je ne voudrais pas que ma fille, lorsqu'elle va avoir 22 ans, 23 ans, ait encore, même qu'elle est née ici, à devoir s'identifier comme elle est issue de la diversité. Elle est québécoise, full stop.
Ouais, je comprends bien.
Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Mariama, pour faire suite à ce que tu as dit précédemment, que penses-tu des nouveaux postes EDI, équité, diversité, inclusion? Maintenant, chaque grande entreprise a son directeur ou sa directrice EDI, sachant aussi que tu as été membre de la table ronde des forces armées canadiennes sur l'inclusion et l'intégration professionnelle de la diversité. Donc, j'aimerais... Moi, c'est un peu flou pour moi, parce qu'on en a vu ces derniers postes, c'est quoi, ça date peut-être d'à peine trois ans, même moins que ça, c'est ça, deux ans. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que t'en penses, toi?
Moi, je pense que je le vois ça d'un bon œil déjà. Parce que souvent, par exemple, quand j'avais rejoint Deloitte en 2017, vite, notre CEO à l'époque, le Big Boss de Québec, m'a approché pour me dire, est-ce que tu peux être le co-porte-parole de l'inclusion avec moi? Et ça vient avec une charge de travail additionnelle à ta charge principale avec laquelle on paye nos taxes. Et puis, on ne faisait pas des 9 à 5. Et je pense dédier un poste rien que pour ça, parce qu'après, c'était vraiment du bénévolat. Puis, on avait un comité d'inclusion, de diversité à l'intérieur de l'organisation. C'était toujours un rôle bénévole. Alors que... pour moi, la diversité et l'inclusion, c'est un vecteur de croissance économique. Si les organisations l'ont compris il y a deux ans, je ne peux être que ravie, parce que c'était un peu ça que je prêchais il y a longtemps, que diversité, inclusion, ce n'est pas juste une cause sociale pour montrer sa responsabilité sociale, mais c'est vraiment un vecteur de croissance. C'est tout dollar investi en inclusion, en diversité, en équité, c'est un dollar qui a un retour sur investissement. Et à partir de là que les investisseurs dans les organisations, les conseils d'administration comprennent que ça fait partie de l'équation économique, je pense que ça rassure déjà l'organisation. Puis ça l'incite aussi à investir. Parce que quand je dis vecteur de croissance économique, c'est un levier d'innovation.
Oui.
Les gens autour de la table qui sont de différentes origines, qui sont de différentes formations, qui sont de différents âges aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est pour la première fois qu'on a dans la même organisation peut-être 4 ou 5 générations à la fois, ce qui est formidable. Alors, tout ça a besoin d'être cané, d'être représenté de façon stratégique dans l'organisation via la création de ces postes-là. D'ailleurs, même à PMI Montréal, on a sorti en mars dernier, en coïncidence avec la Journée mondiale, la charte de PMI Montréal sur le sujet, pour confirmer aussi qu'on va dans cette même veine.
Donc, pour toi, tu penses que ces postes-là vont rester et puis...
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on vit vraiment une certaine métamorphose organisationnelle aujourd'hui. Il y a des postes qui disparaissent, il y a des postes qui reviennent, il y a des postes qui se font redorer, il y a des postes qui se font ajuster. Souvent, par exemple, si je prends juste le poste de directeur de ressources humaines, il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui sont en train de penser, peut-être que ce n'est pas les ressources humaines qu'on est en train de gérer, mais on est en train de gérer des talents.
Oui, c'est vrai.
Et ça fait toute la différence dans la connotation, dans l'esprit de travail, dans l'approche par rapport à ces gens-là. Quand tu travailles dans un cabinet où on travaille beaucoup avec la matière grise, je m'excuse, mais tu ne gères pas des ressources humaines.
C'est ça.
Tu gères des talents, un capital intellectuel. L'approche de le gérer. Et donc, les universités ne peuvent pas former de la même façon un directeur de ressources humaines qui va gérer une manufacture de la même façon qu'il gérerait ou qu'il formerait quelqu'un qui est dédié à gérer un potentiel en AI ou à gérer juste des machines mathématiques.
Oui. Donc, de par cela, est-ce que toi, tu évolues aussi avec, dans le monde des affaires, est-ce que tu as constaté quand même un changement dans le métissage du monde des affaires, c'est-à-dire... ces postes-là, équité, diversité, inclusion, est-ce que les résultats sont probants?
Je ne pense pas qu'on va les voir
à court terme.
À court terme. Okay. Je pense que ça va donner, comme dans toutes les disciplines qui étaient nouvelles il y a 30 ans, comme le marketing, la sociétale, des choses comme ça, ça donne vraiment du résultat sur le moyen long terme. Le long terme a changé. Aujourd'hui, long terme, c'est devenu peut-être 3 ans. Qu'avant, c'était plus long. C'était des périodes plus importantes. Mais il y a cette conscience corporative, puis il y a aussi cet effet de suivi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui adopte ce qu'on appelle les leaders. Généralement, ils adoptent ses meilleures pratiques, appelons-la comme ça, qui adoptent ses meilleures pratiques. Puis généralement, les organisations, d'autres organisations vont suivre, ils vont implanter ça. La seule façon de voir le résultat, c'est vraiment d'attendre, mais encore là, la vitesse à laquelle ces organisations sont en train de se métamorphoser, la vitesse à laquelle aujourd'hui, même les gens aujourd'hui avec des formations classiques, c'est plus viable. Aujourd'hui, les gens doivent s'innover, s'auto-former de façon incroyable, presque aussi rapidement que les machines. Donc, je pense qu'il y a ce défi-là, mais la meilleure façon, je pense que... Mais l'idée là-dedans, c'est d'avoir certains indicateurs importants qu'on pourrait mettre en place pour suivre un peu l'évolution.
L'évolution,
puis pouvoir ajuster ce qu'on appelle les facteurs clés de performance, les KPIs.
Oui, parce que si une entreprise investit là-dedans, ben, en bout de ligne, on devrait, en tout cas dans les 3 prochaines années, voir un métissage différent des ressources humaines.
Absolument. Mais il n'y a que regarder l'histoire de l'histoire ou le mois de l'histoire des Noirs pour voir un peu comment positivement les 5 dernières années, ça a cheminé de façon incroyable. Et aujourd'hui, cette cause-là, elle est présente sur tous les conseils d'administration, dans toutes les organisations. Donc, il y a cette conscience sociale qui s'installe dépendamment des enjeux. Et donc, il y a des vagues dépendamment des incidents qui arrivent, des fois malheureux, comme ce qui est arrivé à... George Lloyd.
Oui, c'est ça, exactement. Puis toi, lorsque tu étais sur la table ronde des forces armées canadiennes, c'était quoi?
L'objectif principal, c'est qu'ils essayaient de trouver une approche pour attirer les immigrants à faire partie des forces armées canadiennes. Moi, je dis d'abord, il faut que ça les, pas les attire, il faut que les gens s'identifient à cette organisation-là, de dire que moi, en tant, je m'identifie en tant que Canadienne d'origine marocaine, comme Canadienne d'origine haïtienne, comme Canadienne d'origine espagnole.
Ouais.
Et c'est cette identification-là qui va créer les liens. L'autre outil, pour moi, mais beaucoup plus dans le marché du travail, c'est ces certifications professionnelles.
Ouais.
D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais créé avec HEC, il y a 3 ans, 4 ans de ça, une bourse qui portait mon nom, qui aidait les femmes immigrantes à se certifier.
Ouais.
Et c'est ça aussi l'enjeu du système professionnel, les certifications non reconnues de l'étranger quand, quand les personnes font le processus. Et encore là, moi, je fais pas de concession sur l'équivalence automatique. Je voudrais pas qu'il y ait des équivalences automatiques, mais que le processus d'accompagnement pour arriver à la certification soit plus léger, soit accompagné, soit soutenu financièrement, aussi ces gens-là pour arriver à cette finalité-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment que puis là, on parle aussi d'LGBT. C'est vraiment que tout le monde se sent inclus. Et lorsqu'on dit inclus, c'est pas la diversité. L'inclusion, c'est toute personne qui appartient à cette organisation doit se sentir confortable, à l'aise, qui travaille avec le meilleur des moyens, mais aussi qui se réveille le matin et qu'il a le goût d'aller travailler.
Oui, tout à fait.
Avec Mariama Zouri, associée directrice service conseil, leader gestion des risques et projets majeurs. Donc, Mariama, on a parlé de toute ton implication au niveau des affaires, au niveau professionnel. Et maintenant, j'aimerais parler du côté communautaire. Tu es aussi très impliquée. Est-ce que pour toi, c'est une façon de redonner?
Écoute, c'est une excellente question. Puis je me fais poser beaucoup cette question-là. Pourquoi c'est important pour toi? Moi, je pense que j'ai eu un moment... D'abord, je pense qu'on a ça dans l'ADN, nous, qui vient d'ailleurs, de vouloir aider, de vouloir être là pour les autres. Mais j'ai eu comme un moment en 2013 d'éveil, parce que j'étais dans le monde corporatif vraiment de façon intense et presque concentrée. Quand je voulais recruter, je ne trouvais pas les gens de ma communauté, par exemple.
Oui.
Je ne trouvais pas les gens de la diversité. Alors que je les connais, je les côtoie dans les galas où je suis présidente d'honneur, lorsque j'étais présidente d'honneur du Gala FOVA ou marraine du projet Hommage aux femmes ou quand j'étais à la tête du congrès maghrébin, je sais que c'est des gens qui ont des certifications, qui sont super formés, surqualifiés, mais quand c'est le temps de recruter, on ne les voit pas. Et donc, ça me dit, il y a quelque chose à faire avec ça parce que ce n'est pas ça la réalité du marché de travail québécois. Et donc, j'étais invitée à un gala à l'époque pour la reconnaissance des femmes arabes. Puis, je voyais drôlement les Libanaises qui snobaient tout le monde, puis les Algériennes qui se chicanaient avec les Marocaines. J'ai dit, ça peut-on travailler ensemble? Et donc, c'est venu de cette époque-là. Et comme j'aime travailler de façon structurée, j'étais approchée par des personnes brillantes aujourd'hui qui travaillent aussi fort comme moi d'abord... C'est juste que moi, ce n'est pas mon gagne-pain. Je gagne ma vie avec autre chose, mais je consacre du temps pour... c'est ça, le citoyen positif aussi. C'est de voir comment je peux avoir de l'influence autour de moi, comment je peux aider. J'avais présidé aussi en 2021, la Société canadienne du cancer. C'était la première fois encore là qu'il y a une femme immigrante. Mm-hmm. Ils ne savaient même pas qu'on avait des cas de femmes qui ont le cancer. Bénéficiaires un peu des services de la Société canadienne du cancer. Certainement qu'il y a des gens qui font des dons, mm-hmm. mais ce n'était pas desservi comme clientèle.
Oui.
Et ça m'a... Ça m'a choquée sur le coup. Mm-hmm. J'ai dit, c'est important comme cause. Et là, il va falloir que la communauté se fait connaître par la Société canadienne du cancer, mais aussi qu'ils soient impliqués, qu'ils mm-hmm. fassent des dons et qu'ils jouissent aussi des services qui seront offerts à tous les Canadiens, dans le fond.
C'est ça. Donc finalement, je t'écoute parler. T'es une ambassadrice aussi, en plus du travail, ambassadrice de toute cette citoyenneté positive, mais tous ces gens qui peuvent aussi... travailler aussi bien.
Et tu serais d'accord avec moi, Marjorie, c'est que we need to walk the talk. On ne peut pas juste dire et ne pas le faire nous-mêmes.
Voilà, exactement.
Donc, il faut prêcher par l'exemple. Mm-hmm. Et moi, toutes les causes qui me tiennent à cœur, quand je m'implique à fond. Et qu'on doit voir les résultats et on doit mobiliser les personnes qu'il faut mobiliser.
C'est ça.
C'est un peu comme ça que je l'approche.
Oui. Puis j'ose te demander maintenant, si tu avais une boîte à outils que tu devais préparer pour justement, pour les femmes en affaires, qu'est-ce que tu mettrais dans cette boîte à outils?
Alors, première, je mettrais un hélicoptère.
Oui.
Parce que j'aime avoir la vision d'en haut, puis j'ai le goût des interventions chirurgicales. C'est quand tu vois d'en haut, tu vois qu'il y a un feu ici, tu es capable d'envoyer les signaux nécessaires pour que les gens dans le terrain puissent agir.
Oui.
J'aime beaucoup cette approche-là. Je mettrais peut-être un ballon de football, parce que tu sais, c'est fédérer les gens, c'est jouer, avoir du plaisir, mais aussi travailler, tout le monde, 11 personnes qui tournent, fois deux, qui tournent autour d'un ballon pour un but commun.
Oui.
Pour moi, c'est très fort comme exercice. Mm-hmm. Puis des fois, on est obligé d'avoir l'extincteur, parce qu'il y a des feux. Forcément, il y a des gens qui sont en détresse, il y a des coins dans une cuisine qu'il faut éteindre. Je pense que j'aimerais avoir ça.
Oui.
Puis moi, je suis une bricoleuse. Alors, chez moi, je fais beaucoup de décorations, j'aménage. J'aimerais... Ça, la seule chose que je ne peux pas toucher, c'est une scie. J'ai peur pour mes doigts. Mais remodeler, je ne dirais pas la maçonnerie, mais presque le design intérieur avec la maçonnerie, un peu d'architecture. J'aimerais avoir des outils comme ça pour pouvoir redessiner les choses. Mais pas dessiner tout ça. Il faut que ça soit fonctionnel.
Oui.
Un tournevis aussi.
Oui.
Un tournevis, c'est très important parce que c'est un peu la force de précision. J'aime la drill.
Oui.
Mais des fois, dans certains contextes, tu as besoin de petits tournevis minces, là. Quand ta poêle, là, elle commence à shaker, tu as besoin de petits tournevis pour aller la serrer, puis elle continue de fonctionner de façon formidable.
Et qu'est-ce que tu mettrais pour les moments un peu de découragement, de comme tu avais parlé un peu plus tôt, de rebond, qu'est-ce que tu mettrais?
Patiner.
Wow,
c'est des patins.
Ouais.
J'aimerais ça. J'ai réussi que ma fille, elle skie puis elle patine.
Mm-hmm.
Je pense, pour dévier, c'est un art. J'ai toujours été fascinée par le patinage artistique. J'en regardais des heures et des heures. Toutes les compétitions, je les suis.
Oui.
C'est d'une force, c'est d'une vulnérabilité à la fois, et d'une précision et d'une grâce, tout en étant dans un mode compétitif. J'aimerais avoir des petits patins.
Mais je prendrais la boîte à outils, moi. Et avec ça, est-ce que tu as déjà pensé ou tu en fais déjà du mentorat auprès des femmes?
Beaucoup. Je me fais solliciter beaucoup. De façon structurée, on le fait au PMI Montréal, le mentorat. Je pense que moi, j'ai eu la chance très tôt d'avoir compris que le mentorat et avoir des mentors auprès de qui on peut demander conseil, c'est quelque chose de vital.
Oui.
Parce qu'il y a des gens qui nous dépassent d'expérience, de vie... et professionnel et émotionnel aussi. Et vraiment, toutes les occasions qui pourraient me permettre d'être proche des femmes puis leur donner un coup de pouce, je le fais. J'étais fascinée à mon dernier voyage au Kenya d'avoir rencontré des jeunes journalistes stagiaires qui sont en âge entre 16, 18 ans, 20 ans. Et ça m'a rappelé quand j'étais au Maroc, moi, à cet âge-là. Et on ne peut pas décliner une demande de mentorat, une demande de coaching quand on a la chance de le faire. J'ai eu la chance d'avoir des gens très généreux que si je commence à les lister, la liste va être longue, mais donc Louise Champeau-Payet, que je recommanderais vivement d'être votre invitée.
Ah oui, tout, c'est bien noté.
C'est une femme formidable. Et encore, c'est des gens qui font la différence des fois juste par le temps qu'ils te donnent, par un conseil. Et donc, c'est presque disgracieux que quand tu te fais solliciter, tu retournes pas l'ascenseur d'une façon ou d'une autre.
C'est vrai, oui.
On a parlé de tes différentes actions et présences, postes et tout ça, mais dans les hautes sphères, la présence de la diversité est encore manquante. Et est-ce que tu as des solutions ou as-tu réfléchi là-dessus?
Écoute, je pense que collectivement, ça devrait passer comme ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années par une loi. Il y a beaucoup de gens qui sont contre ça.
Oui.
On a vu certaines lois qui exigent, par exemple, dans un conseil d'administration, une personne de la diversité, puis une personne qui a moins de 40 ans. Je pense que ça l'a beaucoup aidé, le conseil d'administration, à se doter de certaines de ces ressources-là, puis d'ouvrir la porte à cette population un peu qui n'était pas présente dans les sphères de décision. Moi, je pense qu'on a besoin d'une loi un peu plus exigeante et un peu plus sévère parce que ce n'est pas vrai que ces 10% est représentatif de notre diversité. On est encore dans cette, je pense, gêne organisationnelle de dire qu'on va mettre la diversité. Puis je pense que le secteur bancaire, on est l'exemple ou les assurances et qu'on met les gens de la diversité là où il y a de la population puis là où il y a beaucoup de diversité. Puis au plus, on s'approche des grands centres, là où il y a une population blanche, on a des conseillers, puis on a des gestionnaires qui ressemblent à cette population-là. Ça, c'est intelligent de point de vue gestion et organisation. Il n'y a pas de mal là-dedans. Mais je pense qu'il va falloir craquer un peu les limites c'est et ça, il faut aller mixer ça. Encore, moi, je ne fais pas de concession sur la compétence. On revient toujours à là. On n'est pas autour de la table parce qu'on est de la diversité. On est autour de la table parce qu'on est compétent.
Exactement.
Ça se trouve qu'on est de la diversité aussi.
Voilà.
Ouais. Donc, pour moi, c'est un avantage additionnel à la discussion quand on a ce levier-là. Et donc, le voir encore comme un facteur de croissance économique. Et on a encore du chemin à faire sur ce bout-là. La meilleure façon, c'est... qu'on ait des personnes là où on est, où on peut faire la différence, où on peut donner cette confiance. Parce que, Marjorie, je reviens toujours, je pense qu'on a travaillé beaucoup à promouvoir l'immigration auprès des différents pays pour attirer les immigrants. Mais on n'a pas dit aux populations locales qu'il y a des immigrants qui vont débarquer à Chibougamo, puis qu'au lieu que le pharmacien s'appelle Philippe, il va s'appeler Amadou, puis que, guess what, Amadou... c'est un homme de couleur. La madame qui a 80 ans, qui arrive à chercher ses médicaments, qui a toujours le voix Philippe, elle va être choquée le jour où il y a Amadou qui s'affiche sans qu'elle soit préparée. Je pense que ce bout-là, et j'ai pas arrêté de le dire aux différentes organes décisionnels aux sphères de l'immigration, c'est qu'il faut faire campagne aussi, faire comprendre à ces gens-là que ces gens-là sont, ils contribuent à l'économie, ils payent des taxes, ils sont facteurs très positifs, c'est des citoyens très positifs qui se réveillent comme toi et moi le matin pour aller travailler. Et ce travail-là n'est pas encore fait. Donc, ça crée des biais, puis ça crée des situations fâcheuses des fois.
Exactement.
Comme l'attentat de Québec en 2017.
Oui, oui.
Mais moi, je pense qu'il faut faire un travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inclusion ne peut pas s'en passer de l'intégration. C'est deux éléments fondamentaux pour vivre en société.
Oui, tout à fait. Mariama, est-ce que... As-tu déjà pensé à la politique ou est-ce qu'on est déjà venu te chercher ou est-ce que c'est quelque chose que tu caresses parce que je t'écoute parler, je trouve ça déjà, t'es déjà prête.
Écoute, je me fais poser la question plusieurs fois, fois par semaine. Je pense lorsqu'il y aurait les bons ingrédients et un bon agenda et un bon portefeuille, je pense que c'est très envisageable.
Mm-hmm.
Maintenant, quand je suis encore jeune, j'ai encore du potentiel professionnel, la politique peut venir après. Mais s'il y a une opportunité sérieuse, je le considérerai sur la base de ce qu'on est en train de dire, qu'il y a un agenda très clair, qu'on porte la cause dans les couleurs qu'il faut.
Oui, oui, tout à fait. Puis,
mais je pense, si je peux me permettre, je pense qu'on fait tous la politique d'une façon ou d'une,
d'une autre. Oui, c'est vrai, en effet.
Si on ne le fait pas de façon active, dans le cadre d'un rôle, je pense qu'on le fait quelque part, d'une façon ou d'une autre, de façon positive pour contribuer à l'essor de notre vie aussi, parce que c'est ça, ça nous appartient là où on est.
Exactement, exactement. Alors, en parlant de contribution, tu as une fille, donc, qui est une jeune femme en devenir.
Oui, absolument.
Et qu'est-ce que tu lui apprends? Tu es proche d'elle? Qu'est-ce que tu lui apprends?
Écoute, c'est tout un défi d'être parent. Hein?
Oui, c'est vrai.
Puis, je ne pense pas que ça s'enseigne dans un manuel. Alors, moi, j'apprends en même temps qu'avec elle. Pour moi, c'est à la fois inspirant. Moi, j'ai eu ma fille dans des circonstances un peu difficiles. Mm-hmm. J'ai perdu son papa quand j'étais enceinte d'elle de 6 mois.
Ouais, okay.
Et pour moi, c'était quelque chose qui, d'abord, qui me liait à mon défunt conjoint, mais c'était ma campagne de bataille. Il fallait qu'elle arrive en santé. Puis, je pense que si j'étais pas enceinte, je serais pas là probablement aujourd'hui. Tellement c'était difficile comme choc de vie. J'avais 28 ans. Mais, des fois, elle me donne des leçons de vie. Hein.
Oui, oui.
Ça nous fait réfléchir, ces enfants-là.
C'est vrai.
Et on les voit évoluer. Dieu merci, elle est en santé. Mais encore, moi, ma promesse à elle à chaque fois, c'est que I'm very supportive. Je serai là toujours pour toi, peu importe tes choix. Moi, j'essaie d'influencer ses choix.
Quand même.
Tu comprends, vrai. Mais ça ne marche pas. Mais on essaie, comme dans toute situation, de s'outiller avec l'entourage et d'être bien accompagné, puis être à l'écoute. Ce qui, des fois, nous manque comme outil de travail. L'écoute active, c'est quelque chose de très, très important.
Mm-hmm.
Mais surtout, c'est lorsqu'on est impliqué émotionnellement dans la relation, ça devient difficile. Mais, en tout cas, moi, des fois, je la considère comme ma cliente et je fais la casquette de consultante puis j'essaie d'écouter comment je peux résoudre ça. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, j'utilise les amis, le réseau, j'utilise la grand-maman, j'utilise les tantes, mon oncle.
Ouais. Est-ce qu'elle a le tempérament combatif comme sa mère?
Pas du tout. Alors, pas du tout. Ma fille, elle n'est pas du tout compétitive. Elle est sur ses éléments naturels.
Oui.
Elle est très talentueuse. Mais ce que j'ai remarqué, ce qui m'a fait comprendre les dernières années, c'est que quand c'est elle qui choisit la chose, elle le fait à la perfection. Mm-hmm. Quand c'est quelqu'un qui lui impose la chose, ça devient difficile.
Ah oui, d'accord.
Enfin, elle le fait, mais je trouve ça formidable qu'ils ont cette chance-là parce que, tu sais, avoir le luxe de choisir sa vie, le luxe de choisir son métier, le luxe de choisir où habiter, où... c'est pas donné à tout le monde. Alors, je pense que nos enfants, déjà, ils sont très chanceux de ce qu'ils ont. Maintenant, j'essaie de la faire réaliser qu'elle est quand même choyée et qu'elle doit réaliser et être dans la gratitude aussi vis-à-vis de son environnement. Et la gratitude impliquerait la contribution. D'ailleurs, je la traînais avec moi quand elle était plus jeune, partout dans toutes mes activités, pour qu'elle sache... Quand maman lui dit, je suis au bureau, bah, quel visuel est, c'est quoi le bureau? Quand maman est au gala, c'est quoi le gala?
Et, c'est ça. Donc,
ça leur fait des apprentissages, mais c'est ça les enfants uniques aussi, ils ont ce fardeau d'être le centre d'attention des parents.
Tout à fait.
Donc c'est tout un apprentissage.
Donc on termine notre émission, j'aimerais juste pour terminer, une femme d'inspiration, juste le nom qui t'aurait inspiré?
Alors, plusieurs, mais je reviendrai sur le nom de Louise Champeau-Payet.
Ah,
il
oui.
y a Yves-Francine Ruel-Hérault.
Oui.
Alors, pour te dire, tu vas trouver ça drôle, mais moi, j'ai une grande-maman québécoise et j'ai une grande-maman haïtienne aussi, Jojo.
Oui.
Jocelyne, c'est des personnes qui, de façon généreuse, humaine, c'est quand tu choisis tes grands-mamans, c'est comme incroyable.
Oui.
Alors, j'ai le luxe, moi et ma fille, de choisir des grands-mamans et c'est formidable.
C'est super. Alors, merci Mariama Azouri d'avoir accepté notre invitation. Alors, vraiment, j'ai eu un immense plaisir à t'interviewer. C'est très fort agréable. Alors, je rappelle que mon invitée est Mariama Azouri, associée directrice service conseil, leader gestion des risques et projets majeurs chez Hammersmith Consulting. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre rendez-vous la semaine prochaine.